Inès, bonjour.
Bonjour, Bintoulor Kobero. Bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée. Les titres. Réhabilitation du tronçon Sibut-Bombari. 5 membres du gouvernement centrafricain se sont rendus hier dans la région pour évaluer les travaux. Ils interpellent la population à protéger les matériels de reconstruction de cette route. L'Union africaine réitère son engagement à soutenir le processus du retour de la paix en Centrafrique. Selon le panel, la tenue du dialogue entre le gouvernement et les groupes armés pourrait être organisée dans le pays. Au sommaire également, lutte contre l'insalubrité, source de l'insécurité dans les 3e et 6e arrondissements de Bungui. Plusieurs quartiers ont été envahis par les hautes herbes après l'attaque de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Les travaux de désherbage ont démarré ce matin. Basketball, cri de détresse du capitaine des Fauves de Bazubungi au sujet du pivot américain. À suivre Max Kougueré dans ce journal. Et nous sommes deux pour la présentation de cette édition. Bonaventure Ngomba Katikiro, bonjour.
Bonjour Inès Lorngopo, bonjour à tous.
Le gouvernement centrafricain évalue les travaux de réhabilitation du tronçon Sibut-Bombari.
5 ministres se sont rendus hier dans la région pour toucher du doigt l'évolution des travaux. Ils ont par la suite appelé la population de Sibut à protéger les matériels utilisés pour la reconstruction de cette route.
Le point avec Serge Romial Damilé.
La mission a été conduite par le ministre de la Sécurité publique, Henri Wazé-Lingisara, à ses côtés le ministre des Travaux publics, Ahmed Sidoussi, le ministre de la Fonction publique, Jean-Louis Opalayan, le ministre de l'Urbanisme, Gabi Francky Leffa, et le ministre délégué des Affaires étrangères et de la Francophonie, Chancel Sekodé. Après avoir été sur le terrain jusqu'à Grimari, et constater l'évolution des travaux, les membres du gouvernement ont tenu une réunion à Sibut avec les autorités politico-administratives et locales. Ahmed Sinoussi, ministre des Travaux publics, affirme que les travaux s'avancent bien. Les entreprises respectent les délais prévus pour que la route soit praticable avant la perte de moisson qui aura lieu à Bambari. Il a par ailleurs demandé aux travailleurs de faire bon usage des matériels. Il convient de signaler que les travaux de réhabilitation de ce tronçon Sibut-Bambari route nationale numéro 2 ont été lancés le mois de mars dernier pour délai d'exécution de 6 mois. Ce sera un autre soulagement car cette route n'a pas été réhabilitée depuis 10 ans.
Le panel de l'Union africaine tient toujours à sa feuille de route pour la paix en République centrafricaine. Selon son président, le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés se déroulera dans le pays.
Bédializoum Moussa Nebié a indiqué hier à Bangui que l'objectif recherché à travers ce pourparler est d'aboutir à une sortie de crise.
Il est au micro de Fred Runeria Pindi Nabana.
Nous rencontrons les représentants des associations de la société civile qui sont là-bas, les acteurs locaux de la société civile et politique. Ce sont celles société civile que nous avons rencontré dans les préfectures. Tout dernièrement, nous avons rencontré les acteurs de la société civile et même les acteurs politiques. Pour leur expliquer tout cela, en disant que bon, c'est vrai que la feuille de route dit que c'est le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés. Pour l'instant, effectivement, c'est ce que nous avons fait. Parce que dès lors que vous sortez aussi de votre feuille de route, vous sortez de tout. Vous risquez de retourner à la case départ. Et donc, pour le moment, le panel ne peut que dire, voilà ce que nous faisons conformément à la feuille de route. S'il y a eu un autre consensus qui dit, écoutez, tout ça là, c'est pas ce qu'on veut, on retourne à la case départ, c'est les centrafricains qui pourront décider. Mais nous, en tant que panel, comprenez qu'on ne peut que s'en référer autant que faire ce que à notre feuille de route.
L'insalubrité constitue l'une des sources d'insécurité dans une partie des 3e et 6e arrondissements de Bangui. Les quartiers environnants du kilomètre 5 envahis par des hautes herbes suite à l'attaque de la paroisse Notre-Dame de Fatima sont en train d'être désherbés.
Les habitants de Pétene 1 ont lancé les travaux ce matin. Ils vont se poursuivre également dans les quartiers Kokoro 2 et 3.
Sylvain Oudra-Nzonien, au chef de quartier Pétene 1 avec Gilles Dasnabiza.
Bon, cette activité est dans le but de promouvoir la paix, la libre circulation et de favoriser le retour des déplacés dans une quiétude. En effet, l'événement de la paroisse Notre-Dame de Fatima a plongé notre secteur dans un sérieux problème d'insécurité, ce qui a poussé presque toute la population à fuir pour se résider ailleurs. Nous avons pu constater que les herbes sont en train d'inonder ces lieux, qui deviennent de plus en plus pour des petits délinquants, des lieux très rassurants pour commettre des infractions. Raison pour laquelle Nous avons consacré cette journée exclusivement à désherber pour rendre propre notre localité afin de mettre en évidence tout ce dont nous avons parlé si haut. L'honorable Denis Modemadé, lorsque je suis allé auprès de lui pour lui parler de cette activité, il était très d'accord et il nous a soutenus en nous donnant de l'eau à boire, de pouvoir aussi des machettes pour nous permettre à broussailler les herbes. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver encore ici pour travailler encore davantage.
La sécurité des lieux où se déroulent les travaux est assurée par les éléments du contingent rwandais de la MINUSCA.
Vous écoutez Radio Ndekiluka, un homme accusé de tentative d'assassinat sur son épouse est arrêté par la gendarmerie du PK9.
Âgé de 44 ans et originaire de la RDC, il a été appréhendé mercredi dernier par les autodéfenses du village Modale à 75 km de Bangui et remis aux forces de sécurité. Il aurait sur lui au moment de son arrestation une arme de chasse.
Prosper Douma Lakbe, chef du village Modale, donne plus de précisions sur ce fait.
Cette femme vit avec son mari au village Lessé-Pont. Elle était menacée de mort alors qu'elle avait un bébé de 3 mois. Le fait de fuir dans la brousse sous les pluies, l'enfant a attrapé une fièvre et il est décédé par la suite. Informé de la mort de son enfant, le mari a envoyé dire à sa femme qu'à son arrivée, qu'elle ressuscite l'enfant. La femme est venue me mettre au courant. Quelques jours après, le mari a fait son irruption dans sa belle famille pour vociférer des menaces avec une arme à feu. À son arrivée, sa femme n'était pas là. Il s'est présenté avec une arme chargée de balles. Il a demandé où se trouve son épouse. Les beaux-parents ont répondu qu'elle est encore dans la brousse. Il a retiré la balle du fusil. Sa famille l'a prévenu de la visite de son mari. Immédiatement, elle est venue m'en faire part. J'ai envoyé les autodéfenses. Elles lui ont demandé de se soumettre. Il a refusé. Je me suis présenté. Je lui ai demandé de lever les mains. J'ai ordonné qu'on le contrôle. Le contrôle a révélé un couteau caché. Je lui ai dit de s'allonger. Il s'est allongé. J'ai exigé qu'on lui attache les bras par derrière. Et nous l'avons conduit aux forces de sécurité.
Lancement du manuel des termes usuels de droit pénal par plusieurs organes de presse était vendredi dernier à la cérémonie de remise de ce document à la base de la MINUSCA à Bangui.
Ce document de 47 pages répertorié en lettres alphabétiques permettra aux journalistes d'utiliser les termes appropriés pour traiter des sujets de justice.
José Richard Poimbi, président du Haut Conseil de communication avec Fred Roneria Pintéinapana.
Le domaine juridique a son langage, a son jargon. Et si vous voulez avoir des journalistes aptes, n'est-ce pas, réaliser des reportages, à réaliser des chroniques de qualité avec des mots appropriés. Il est important de leur faire subir une formation. Et donc la formation avait été déjà faite et aujourd'hui, avec l'appui de la MINUSCA, le Haut Conseil de la communication est en train de distribuer la lecture juridique pour permettre aux journalistes intéressés dans le domaine judiciaire, n'est-ce pas, de pouvoir s'approprier des jargons juridiques pour être à même de comprendre le message véhiculé par les juges, par les magistrats, par les huissiers de justice, les notaires, et surtout avec l'opérationnalité de la Cour pénale spéciale. Il y aura des journalistes qui seront appelés à assurer la couverture médiatique. Donc, c'est important, n'est-ce pas, de les doter de ces lectures juridiques pour leur permettre d'appréhender, n'est-ce pas, les jargons juridiques.
La remise de ce lexique intégralement élaboré à Bangui par une équipe d'experts nationaux et internationaux fait suite à un séminaire sur la couverture des événements judiciaires par les journalistes en 2017 sur financement de la MINUSCA.
Autre actualité, c'est ce nouveau centre psychosocial et d'assistance juridique pour les victimes des violences dans le 7e arrondissement de Bangui.
Il s'agit d'un espace d'écoute et de référence pour les personnes vulnérables et qui désirent être assistées quand leurs droits sont bafoués.
Lancement officiel des activités a eu lieu jeudi dernier, une initiative de l'association des femmes juristes de Centrafrique qui entend étendre ses actions dans tout le pays.
Nadia Karine Fornel-Poutou, présidente de l'AFJC, explique les principales missions de ce centre à votre micro Inès Lorngopo.
Le centre d'écoute qui s'ouvre aujourd'hui dans le 7e arrondissement, c'est un centre d'accompagnement psychosocial et d'assistance juridique. Le but de ce centre, c'est d'apporter un début de solution à toute personne victime ou toute personne qui veut avoir des informations sur leurs droits ou victime de violences basées sur le genre ou violences sexuelles. Le centre dispose de deux services. Il y a le service psychosocial qui est la porte d'entrée et le service juridique. Le service psychosocial, comme je l'ai dit, c'est la porte d'entrée. Ça veut dire que toute personne qui arrive au niveau du centre est écoutée par l'agent psychosocial qui est responsable de ce service. La population du 7e arrondissement fait partie de nos bénéficiaires. Et aujourd'hui, il y a un centre qui est plus proche d'elle, j'exhorte la population du 7e arrondissement à fréquenter ce centre, à venir avoir des informations sur leurs droits et à venir chercher des informations en ce qui concerne le service que nous offrons au sein de ce centre. Nos services sont gratuits.
Bonaventure, un nouveau bureau pour l'Union des journalistes de Centrafrique. Il a été mis en place hier au cours d'une assemblée générale élective à Bangui.
Et oui, Inès, l'élection a mobilisé plusieurs journalistes de la presse privée et publique. Le poste de la présidence est occupé par Tita Samba Solé. La vice-présidence est assurée par Jean-Fernand Koïna. Le secrétariat général revient à Apollinaire Modeste Ngumba Sakomi. Et la trésorerie est gérée par Francine Evodi Ndemadé.
Ils sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelable au micro de Eudalutindiko. Le vice-président Jean-Fernand Koïna revient sur les défis majeurs qui attendent ce bureau.
Non, pas de siège, c'est un défi majeur pour nous de discuter avec le gouvernement dans le but d'avoir un endroit indiqué pour les journalistes où ils doivent se réunir, ils doivent parler de leurs problèmes. Deuxièmement, c'est une priorité majeure aujourd'hui de discuter de manière à ce que les gènes des peines qui figurent dans la loi 005 du 22 février 2005 soient corrigés. Le troisième point, c'est le statut particulier des journalistes. Aujourd'hui, on traite les journalistes avec mépris. Alors, ceux-là qui font le gros travail, c'est la vitrine du pays. Les gens qui sont à l'extérieur ont l'information sur la République centrafricaine à travers les informations que donnent les journalistes. Non seulement on ne veut pas bien payer les journalistes pour qu'ils puissent vivre décemment de leur travail, mais on leur crache encore dessus. Ça, là, ça doit terminer.
Et la page du sport, c'est avec vous, Providence. Bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Basketball, cri de détresse du capitaine des Fous de Bazou Bongui au sujet du pivot américain qui devrait rejoindre l'équipe nationale.
Max Kougueré demande aux autorités et à toute personne de bonne volonté de se mobiliser pour trouver les 15 000 euros de prime, 10 millions de francs CFA de ce joueur grand de 2,10 mètres. Les basketteurs centrafricains sont regroupés en ce moment à Sousse en Tunisie avant le tournoi de Dakar fin juin. Max Kougueré, je pars. Bienvenue Bélo.
C'est un joueur américain qui vient jouer pour nous, il ne vient pas pour rien. Quand on est sur notre équipe, on n'a pas vraiment des joueurs de grande taille et on a besoin pour affronter les équipes comme Sénégal, Côte d'Ivoire, qui sont hyper grands, de la taille à l'intérieur pour nous prendre des rebonds, mettre quelques paniers à l'intérieur, pour dissuader un peu à l'intérieur. Et on a vraiment besoin de lui, on a vraiment besoin d'un joueur de grande taille dans notre raquette, quoi. D'abord, je remercie le gouvernement parce qu'il n'y a que eux qui sortent des moyens pour nous, pour participer à des compétitions et tout. Même si l'équipe centrafricaine, c'est pour tout le peuple centrafricain. Donc, on a besoin de tout le monde, des contribuables, il y a des sociétés, la place qui sont là-bas. L'Américain, là, on a vraiment besoin de lui. J'espère que le gouvernement va faire quelque chose pour débloquer sa situation, pour qu'il nous rejoigne, pour aller faire quelque chose de bien et de mieux pour notre pays.
Football, poursuite de la Coupe du Monde 2018 en Russie.
En ce moment, l'Angleterre joue contre le Panama à 16h. Le Sénégal sera opposé au Japon à 19h. La Pologne affrontera la Colombie. Hier, la Belgique a battu la Tunisie 5 buts à 2. Victoire du Mexique sur la Corée du Sud 2 buts à 1. Et l'Allemagne a dominé le Suède 2 buts à 1.
Football encore, la Fédération centrafricaine tient son assemblée générale ordinaire depuis ce matin dans la commune de Bégoua.
Les travaux sont consacrés à l'évaluation des activités menées entre 2017 et début 2018. Tous les représentants de la Ligue de Bangui et de 13 ligues de province y prennent part. Patrice Edouard Ngaïsona, président de la Fédération de football.
Le point essentiel aujourd'hui s'articule sur les rapports d'activité, les rapports financiers, les rapports d'audit et les propositions pour prendre encore un auditeur interne et encore demander le point de vue des délégués pour une deuxième assemblée générale maintenant chaque année que nous devons tenir au moins chaque fin de l'année au mois de décembre pour permettre d'adopter le budget de l'année suivante. Les deux points là qui sont inscrits comme des points nouveaux à l'ordre du jour initial.
Ces assises prendront fin ce soir.
Handball pour finir, Providence pour la deuxième journée du championnat allié de la Ligue de Bangui.
Cet après-midi à 16h sur le terrain de l'INGS, National Guitangola disputera la manche avec BMUO 2 Hit. Ça concerne les hommes. Entre-temps, à 14h30 chez les dames, les Anges de Bensvie affrontent Assopéti.
Et merci à vous Providence, les nouvelles du sport mettent un terme à ce journal en français. Merci à vous de l'avoir écouté. La version Sango, c'est juste après la revue à l'international de Fleury Roger Coursani.
La revue de presse de Radio Ndeke Luka. La revue de presse internationale, une présentation de Fleury Roger Coursané. Fleury, bonjour.
Cyrus, bonjour. Bonjour à tous.
À la une de la revue à l'international, Centrafrique, le retour prévu de l'armée à Bangassou suscite l'espoir.
L'agence France Presse, qui a donné la parole à certains habitants de Bangassou ainsi que certaines personnalités, précise que le retour des FACA dans la ville suscite l'espoir d'une reprise rapide des activités. Si les FACA arrivent, le marché va rouvrir, les choses vont s'améliorer, s'enthousiasme Victorien, un commerçant de Bangassou. Parfait Onanga Nyanga, chef de la MINUSCA venu à Bangassou début juin pour préparer le retour des soldats, précise pour sa part que l'arrivée des FACA permettra de réduire les problèmes d'insécurité à Bangassou. Quand l'armée va arriver, les fonctionnaires ne pourront plus prétexter la situation sécuritaire pour rester à Bangui, mentionne Auguste Silo, préfet du Mbomou.
Radio France Internationale titre dans son édition en ligne à propos de la livraison d'armes chinoises à la République centrafricaine que les Occidentaux demandent des précisions.
Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont demandé plus de renseignements à Pékin, qui répondait à une demande du gouvernement centrafricain pour une exemption à l'embargo sur les armes auquel est soumise la RCA depuis 2013. Les autorités chinoises, selon RFI, ont maintenant 6 mois pour apporter des clarifications avant que la demande d'exemption puisse être levée, d'autant plus qu'elle bénéficie du soutien de l'Union européenne qui entraîne les forces armées et de la MINUSCA. Au siège de l'ONU, on affirme que c'est juste une procédure classique dans une demande d'exemption d'embargo sur les armes. Une source occidentale citée par RFI indique que cette demande d'explication ne préjuge pas de l'issue de cette enquête.
Enfin Fleury, le faux passeport diplomatique de Boris Becker intéresse RFI.
Poursuivi par la justice britannique, le champion tennis Boris Becker a invoqué la semaine dernière l'immunité diplomatique pour tenter de mettre fin à la procédure de faillite. Depuis avril, il affirme avoir été nommé attaché diplomatique de la RCA auprès de l'Union européenne par le président Touadéra en personne et brandit un passeport diplomatique centrafricain, ce que démentent les autorités centrafricaines. Le porte-parole de la présidence centrafricaine, Albert Yaloké Mokpem, cité par RFI, déclare qu'il n'existe aucun document pouvant attester que Boris Becker a été nommé à un quelconque titre que ce soit par le président de la République, Faustin Akanji Touadéra. Bonne lecture à tous.
La revue de presse de Radio Ndékéluka.